Bon, alors, je dois avouer humblement que c'est moi qui ai choisi le titre. La religion a-t-elle échoué? Enfin, nous avons choisi ensemble, mais c'est moi qui ai conçu ce titre. Et je réponds tout de suite à la question en disant, évidemment, si on parle de succès ou d'échec, il s'agit d'identifier le critère de jugement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quel est le but de la religion? Si elle a échoué ou réussi, ce but, ça dépend de ce qu'on considère comme le but de la religion. Mais si nous prenons comme but de la religion l'universalité, si nous disons que le but de la religion, c'est de favoriser la coopération et l'amitié, et l'harmonie entre les gens du monde, d'une façon générale, alors nous pouvons répondre que les communautés de foi qui existent actuellement ont bel et bien échoué à cette tâche-là. Et d'ailleurs, comme dit un message récent de la Maison de justice, la religion, les communautés religieuses, je vais me forcer à dire ça, les communautés religieuses existantes actuelles, je ne parle pas donc des bases théoriques, philosophiques et tout, contribuent peut-être plus au conflit dans le monde qu'à la paix, et même beaucoup plus. On voit les conflits, par exemple, entre les hindous et les musulmans. En Asie, entre les juifs et les musulmans, entre les catholiques et les protestants, en Europe, à différents endroits, en Irlande, etc. Aux États-Unis, il y a des multiples sectes qui, chacun, affirme avoir la seule et unique vérité. J'ai fait une expérience très intéressante en fin de semaine à San Francisco. Nous avons eu une discussion un peu comme celle-ci. Avec un couple chinois. Ce sont des gens très éduqués, ils ont chacun un doctorat. Le monsieur a un doctorat en chimie physique et il travaille actuellement sur le projet du génome humain dans une boîte de recherche à San Francisco. Il écrit des programmes ordinateurs pour dépister des gènes, etc. Et sa femme a un doctorat en économique. Et elle, entre autres, a traduit les œuvres de Milton Friedman en chinois. Je ne sais pas si vous connaissez Milton Friedman, mais en fait, c'est un économiste très bien connu, pas très bien aimé de certaines personnes, dont moi-même. Mais c'est un homme qui a une très grande influence dans le monde économique. Et elle a fait son doctorat avec lui et puis elle a traduit certaines de ses œuvres en chinois. Donc c'est un couple extrêmement éduqué qui ont connu le communisme. Ils viennent de la Chine. Ils ont connu le communisme et tout ça. Ils se sont échappés, pour ainsi dire. Ils sont arrivés comme réfugiés, d'abord au Canada et ensuite aux États-Unis. Et tout ça pour dire que c'est des gens, si vous voulez, de tout point de vue intellectuel, éducationnel, social, et c'est vraiment le crème de la crème, si vous voulez. Alors, ils ont décidé, ils disent maintenant, on est dans le pays du rationalisme, du pragmatisme, de liberté, on va maintenant chercher la religion. On n'a pas eu l'occasion jusque maintenant de faire une chose spirituelle parce que les religions sont interdites ou réprimées en Chine et tout ça. Maintenant, nous avons fait notre éducation, nous sommes au point où on a vraiment besoin de la spiritualité de la religion. Alors ça, c'était très intéressant. Ils sont allés à une église protestante. Et puis bref, on avait une discussion de 3 heures peut-être, où il ne cessait que de poser des questions. Et toutes les questions, c'était, mais qu'est-ce que ça veut dire, enfin, tout là, Adam et Ève, est-ce que les chrétiens ne croient pas à l'évolution? Enfin, la science a démontré l'évolution. Qu'est-ce que c'est le péché originel? Si l'homme se développait au travers des années, alors il devient meilleur, pas pire, en fait, etc. Est-ce que Jésus est né d'une vierge? Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a à faire avec le message de Jésus? Qu'il soit crucifié et ressuscité après 3 jours. Mais toute cette magie, etc., tout ce rituel à l'église, etc. Le folklore, oui. Alors, ils ont vomi tout ça, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Ils ont vraiment... Ils ont dit tout ça, oui. Non, mais dans la place publique, oui. Et puis, ils ont dit, mais... Et ils étaient sincères, ça c'était... Ils voulaient croire, ils disent, mais... Et j'ai dit, mais... Le but de la foi chrétienne, par exemple, à mon avis, ce que Jésus a enseigné, c'est une pratique, c'est la pratique de l'amour. Et si vous lisez l'Évangile, vous allez voir qu'il n'y a pas de doctrine qui vient de la bouche de Jésus. Jésus enseigne pas des doctrines, mais il enseigne une pratique. Et les doctrines, ça vient après, enfin, ça vient d'autres personnes. Jésus a dit, par exemple, que... Et mon adepte, celui qui aime les autres comme moi je vous ai aimé. Il n'a jamais donné un critère de croyance qu'il fallait croire à tel ou tel dogme, etc., pour être de ses adeptes. Il a parlé d'une pratique, d'une qualité de relation. Il dit, oui, je sais, mais le pasteur nous dit qu'il faut croire dans toutes ces choses-là. Si on veut être chrétien, on est obligé de croire ça. Alors j'ai dit, mais écoutez, qui a donné le droit à cette personne de définir pour vous ce qui est la croyance en Christ, n'est-ce pas? Est-ce qu'il peut vous ôter le droit de croire en Jésus en vous imposant des choses? Mais ils disent, mais c'est ça qu'il dit. Puis, évidemment, la logique qu'ils avaient était évidente, c'est-à-dire, c'est lui le chrétien, c'est lui le pasteur, c'est lui le représentant de la foi chrétienne. Si lui, il dit ça, comment est-ce que nous osons nous affirmer vis-à-vis de ça? C'est-à-dire, ils étaient très autonomes intellectuellement dans la science, dans la société et tout ça, mais dans la religion, ils n'osaient pas vivre la même autonomie intellectuelle parce qu'ils étaient complètement débousillés par tout ça. Et elle dit, mais est-ce que vous pensez que Jésus a été ressuscité après 3 jours? Est-ce que vous pensez que Jésus est né d'une vierge? Je dis, je ne sais pas et je m'en fous. Je dis, l'important du message de Jésus, c'est l'amour qu'il a enseigné, la pratique d'amour qu'il a enseigné. C'est le message que Jésus nous a donné. Je dis, alors, est-ce que le fait, il a dit, est-ce que vous êtes d'accord que le noyau de la moralité chrétienne, c'est d'aimer son prochain comme soi-même? Ils ont dit, oui, c'est ça, c'est aimer son prochain comme soi-même, exactement ça. Alors, alors j'ai dit, mais est-ce que le fait de croire ou ne pas croire à la résurrection de Jésus ou à la naissance de Jésus par une vierge, est-ce que ça augmente ou diminue votre capacité d'aimer votre voisin? Il dit, non, pas du tout, ça n'a aucun rapport. Je dis, voilà, ça n'a aucun rapport. Donc, les communautés religieuses sont devenues des repositoires d'idéologies, de dogmes, qui sont dans une grande mesure irrationnels ou incompréhensibles même au monde rationnel. Et non seulement les communautés religieuses incorporent ces dogmes, mais ils disent, comme le pasteur leur a dit, que c'est la chose la plus importante. Que sans ça, on n'est pas chrétien. Donc, autant par exemple, enfin on peut extrapoler, autant qu'on aime son voisin, on n'est pas chrétien si on ne croit pas à ses dogmes, n'est-ce pas? Enfin, selon ce pasteur, enfin selon la croyance chrétienne établie dans cette communauté religieuse. Alors, D'abord, posons-nous la question, de point de vue strictement social et historique, quel a été le but, quelle a été la contribution de la religion à l'évolution sociale? Et là, c'est un point qu'on peut clarifier assez vite et assez bien. Nous savons que l'histoire sociale de l'humanité a vu l'organisation de la vie sociale de l'humanité à des échelles d'unités de plus en plus grandes. La famille, la tribu, la ville-état, la nation, et maintenant nous sommes au seuil de l'unité des nations, où cette question de l'unification des nations se pose. Alors, j'ai déjà parlé de ça lors d'une causerie précédente, et je ne veux pas entrer dans autant de détails, mais on sait, les anthropologues et tout ça, on sait que dans les familles, dans les tribus, les relations sociales sont toutes une à une. C'est-à-dire que tout le monde dans la tribu connaît tout le monde dans la tribu. Parce que c'est la seule base de sécurité dans les relations. C'est-à-dire que je dois vous connaître pour savoir vos penchants, est-ce que vous vous fâchez facilement, etc. Je dois vous connaître pour connaître... Pour être à l'aise avec vous, parce qu'autrement, vous pouvez me surprendre, vous pouvez être une personne qui va me saboter, me faire du mal, etc., etc. Donc, les relations familiales, la famille étendue y compris, et les relations tribales, sont basées sur la connaissance personnelle les uns des autres. Mais les unités plus grandes, à partir de la ville-État, et surtout la nation, sont basées sur une autre sorte de relation, que les historiens appellent les relations une-plusieurs. C'est-à-dire, on peut dire les relations personnelles, c'est les relations une à une. Les relations une-plusieurs, c'est la relation entre un individu et un groupe auquel il s'identifie. Mais un groupe abstrait, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la famille n'est pas un groupe abstrait. La famille est concrète, c'est-à-dire, vos parents sont vos parents, c'est pas simplement une idée. Mais la patrie, par exemple, pour sauter à l'exemple le plus simple, c'est une abstraction, n'est-ce pas? La patrie, quand on va parler de défendre la patrie, de mourir pour la patrie, cette patrie, c'est vraiment dans la tête de tout le monde. La frontière entre le Canada et les États-Unis, par exemple, on ne voit pas quand on s'envole en avion, n'est-ce pas? On voit ça sur les cartes. Mais c'est évidemment, c'est l'homme qui a fait ça, n'est-ce pas? C'est le fait qu'il a la frontière, c'est dans la tête des gens, n'est-ce pas? Il n'y a pas de frontière dans la nature entre le Canada, ce qu'on appelle le Canada, les États-Unis. Donc, il y a, si vous voulez, des différences naturelles. La différence de sexe, par exemple, on fait un homme et une femme, c'est pas la même chose. Concrètement, c'est pas la même chose. C'est pas simplement une idée. Il a des différences naturelles, mais il a des différences artificielles que l'homme a inventées. Et les patries, c'est des divisions artificielles. Parce qu'il n'y a rien, absolument rien dans la nature qui dit que là, il doit y avoir frontière et qu'on doit traiter d'une autre façon avec les gens d'un côté de la frontière que de l'autre côté, n'est-ce pas? C'est des pures conventions sociales, c'est issu de l'histoire des conventions sociales entre les êtres humains. Et puis les pays fusionnent, se séparent, enfin, c'est-à-dire la façon que ça se transforme, démontre très bien combien fragile, mais aussi combien abstraite est cette unité qu'on appelle la patrie. Alors, la question se pose simplement comme suit. Qu'est-ce qui permet à l'individu de s'identifier à une collectivité abstraite? C'est-à-dire, d'abord, posons-nous la question suivante. Quelles sont les conséquences psychologiques et sociales, quelles sont les conséquences pour les relations humaines de l'identification à un groupe? Grosso modo, c'est la chose suivante. Si je m'identifie à un groupe, je ressens une menace au groupe comme une menace personnelle. Donc, si je m'identifie à ma famille, si je suis fidèle à ma famille, si ma sœur est menacée, Je suis prêt à la défendre, même éventuellement de sacrifier ma vie pour la protéger. Autrement dit, je ressens une menace à ma sœur comme une menace à moi-même. Je réponds à une menace à ma famille exactement comme si c'était moi-même qui était directement menacé, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la solidarité qui provient d'une identification, n'est-ce pas? Et la même chose, pour que la tribu existe, pour que cette unité, qu'on appelle la tribu, existe, les gens doivent s'identifier à la tribu à ce point qu'ils ressentent une menace à la tribu comme une menace personnelle, et ils sont d'accord de se mobiliser, même de mettre leur vie en jeu pour défendre cette unité qui est la tribu. Donc la création d'une unité telle la patrie, l'État-nation, dépend de la capacité des individus citoyens de cet État de s'identifier à cette collectivité abstraite, à tel point qu'ils ressentent une menace à cette patrie comme une menace à eux-mêmes. Et cette force d'identification existe en fait. On n'a que de regarder les guerres du XXe siècle, n'est-ce pas, qui étaient les guerres entre les pays. Parfaitement arbitraire. Regardez, par exemple, un des exemples les plus frappants, la France et l'Allemagne s'entretuent régulièrement, s'entretuaient pendant des années, des centaines d'années. Finalement, ça aboutit à la Première Guerre mondiale, où ils s'entretuaient par millions et des millions. Finalement, la France a gagné, pour ainsi dire. Ensuite, il y a 20 ans plus tard, la Deuxième Guerre mondiale, où l'Allemagne a d'abord gagné sur la France. Et la France plus tard a été libérée par les autres et tout ça. Mais dans tous ces cas-là, c'était la patrie que les gens défendaient. Les gens, par millions, allaient mourir pour la patrie. Ou en Russie, par exemple, Staline avait déjà tué des millions des Russes dans les persécutions internes en Russie. Mais quand l'Allemagne a attaqué la Russie, les Russes se sont mobilisés par millions pour défendre leur patrie. Et il y a des millions de Russes qui sont morts. Et puis, tout le monde est d'accord, les Allemands même, ils étaient absolument éblouis par l'esprit de sacrifice des soldats russes. C'est-à-dire les soldats russes ne reculaient devant rien, absolument devant rien du tout. Les Allemands, évidemment, au début de la guerre, ils avaient une machine de guerre épouvantable. Ils avaient une sorte de sécurité à cause de leur force militaire. Mais les Russes n'avaient pas l'équivalent de la force militaire des Allemands. Mais les Allemands étaient finalement... ils ont succombé, enfin, simplement à la force. Les soldats russes, ils avaient des petits fusils de rien du tout, etc. Ils n'avaient pas du tout l'armement des Allemands. Mais ils se sont battus comme des chiens enragés. Ils sont morts par millions. Et pour cette chose aussi abstraite que la patrie, n'est-ce pas? Alors, donc, qu'on déplore ça ou non, c'est pas là la question, où j'en veux dire, mais il faut constater le phénomène. Il faut constater que c'est quand même un phénomène des gens qui sont d'accord pour aller. C'est-à-dire, ils peuvent dire, mais voilà, bon, on est soumis à Staline, c'est un dictateur, il tue des gens, etc., au nom du communisme. Alors, si les Allemands nous envahissent, s'ils gagnent, eh bien, on va être simplement sous la dictature de Hitler, au nom du fascisme, qui est à peu près la même chose du communisme de toute façon. Alors, qu'est-ce que ça va vraiment changer? C'est-à-dire, ils auraient pu prendre cette attitude, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est l'attitude que certaines personnes ont pris en Ukraine, par exemple. Ils ont accueilli les Allemands comme des libérateurs, parce que les Ukrainiens étaient vraiment persécutés par Staline. Il avait la famine dans l'Ukraine, enfin, je ne vous ai pas les détails de l'histoire, mais il avait une grosse famine en Ukraine qui a été créée par Staline simplement pour soumettre les Ukrainiens. Et donc les Ukrainiens étaient prêts à accueillir les Allemands comme des libérateurs. Et bien, les Allemands étaient trop stupides pour comprendre ça. Alors ils ont massacré les Ukrainiens comme ils ont massacré les Juifs et les Russes et tout le monde d'autre. Mais en fait, il y avait même des gens qui prenaient cette attitude. Ils disent, mais voilà, je veux bien vivre. Alors que je sois sous la tutelle de l'Allemagne ou la tutelle de Staline, ça m'est égal, n'est-ce pas? Mais la plupart des gens ne prenaient pas une telle attitude. Alors d'où vient la force de cette identification avec une chose aussi abstraite que la patrie? Alors ça vient de la religion. C'est-à-dire, tous les historiens sont d'accord, c'est uniquement la religion qui a doté l'humanité de cette capacité de l'identification à une unité abstraite. C'est-à-dire une unité abstraite composée des personnes qu'on ne connaît pas personnellement. Alors, l'exemple, par exemple, le plus frappant, c'est peut-être l'islam, qui était peut-être le premier état-nation, véritable nation. Alors, au sommet du développement de l'islam, mettons vers l'an 1000 à peu près, un homme, il faut dire un homme, pas une femme, mais quand même, un homme pouvait aller du sud de l'Espagne, tout au travers la Méditerranée, jusqu'au Proche-Orient, jusqu'en Inde, en rencontrant que des étrangers personnels et en étant reçu partout comme un frère musulman. Ça, c'était l'unité que l'islam avait créée. Autrement dit, si à ce moment-là, si vous êtes musulman, et je suis musulman, je ne sais rien du tout de vous personnellement, mais je sais, si vous êtes musulman, vous êtes soumis à une certaine discipline morale auquel je suis soumis, et ça me donne plus de confiance en vous que la confiance que je peux avoir dans un voisin d'à côté qui n'est pas musulman, n'est-ce pas? Donc, en créant, si vous voulez, une unité morale, une unité à base morale, la religion a donné, a jeté la base des unités sociales plus complexes qui permettent l'évolution de second ordre de la société tel que nous le voyons aujourd'hui. Maintenant, comme tout pouvoir, le pouvoir de la religion, ou la force, le pouvoir de cette identification peut être utilisé pour le bien ou pour le mal, n'est-ce pas? Ce réservoir de fidélité que constitue une communauté religieuse crée un pouvoir immense, n'est-ce pas? Parce que les gens sont prêts à se sacrifier pour ça. Et surtout, s'ils sont soumis à des leaders, s'ils ont des bons leaders, ça c'est une chose, mais s'ils ont des leaders manipulateurs et tout ça, les gens peuvent être amenés à poser toutes sortes de gestes, comme nous avons vu dans l'histoire de la religion, les guerres de religion, les croisades, l'inquisition, enfin, toutes les horreurs qui ont été faites au nom de la religion. Et la même religion qui a prêché la pratique de l'amour comme principe de base, n'est-ce pas? Alors, pour écouter la chose, disons la chose suivante. Il y a un prix qu'on a payé. Ce n'était pas nécessaire de payer ce prix, mais il y a un prix qu'on a payé pour se prévaloir de cette force qui est la religion. Et ce prix vient maintenant nous hanter. Et ce prix, c'est une frontière très ferme entre les croyants et les non-croyants, les croyants et les infidèles, les sauvés et les damnés. Et ça, c'est le pire de tout, n'est-ce pas? Ça, c'est le pire de tout. C'est-à-dire que les Canadiens, les Américains, bon, on a nos différences, mais quand même, on est des êtres humains, et puis on parle la même langue, sauf pour le français, ben, les Américains aiment quand même bien le français, il n'y a rien là, n'est-ce pas? C'est-à-dire que on voit maintenant que la France et l'Allemagne, qui sont déchirés, ils ont dit, mais voilà, pourquoi on continue à faire ça? C'est à nos avantages mutuels de faire la paix, surtout pour les biens matériels, économiques, pour nos intérêts égoïstes, propres. Ça vaut la peine, et maintenant, allez, en Europe, il n'y a presque pas de frontière entre l'Allemagne et la France. Et ça, c'est... Il y a 50 ans, qui aurait prédit ça, enfin, juste après la Deuxième Guerre, qu'il avait une telle haine, enfin, les Allemands avaient fait tellement d'atrocités et tout ça. Qui aurait dit que dans 50 ans, il n'y aura presque plus de frontière, en fait. Par exemple, les professeurs ont le droit de postuler, les professeurs allemands peuvent postuler en France et inversement et tout ça. Ils ont l'échange à tous les niveaux, n'est-ce pas? Et ils ont une hymne nationale de l'Europe qui est d'abord l'ode de joie à la joie de Beethoven, de 9e symphonie et tout ça. Et ils ont un parlement à Strasbourg. Et un centre à Bruxelles, etc. Bon, bref, les pays arrivent à faire l'unité entre eux simplement sur la base des intérêts économiques propres. Okay. Mais les religions, non. Les religions, non. Pourquoi? Parce que les non-croyants ne sont pas simplement des gens qui parlent une autre langue ou qui ont des habitudes culinaires un peu différentes, n'est-ce pas? Ce sont des infidèles. Ce sont des damnés, ce sont des réprouvés. Alors, de toutes les frontières sociales qui existent, n'est-ce pas, raciales, linguistiques, culturelles, enfin, nommez toute la liste, la frontière religieuse est devenue la pire de tout. Parce que, donc, justement, j'ai dit que la religion avait créé une base morale de la société. Et c'est vrai, comme j'ai dit, le musulman reconnaissait dans un musulman étranger personnel une personne envers qui il avait plus de confiance qu'un voisin qui n'était pas musulman. Pourquoi? Parce qu'il savait lui-même ce que ça voulait dire, être soumis à Mohammed, à la loi de l'islam. Et il savait que ça voulait dire qu'il ne faut pas voler, que si on vole, on va vous couper la main droite, n'est-ce pas? En fait, si vous volez deux fois, c'est deux fois, ou je ne sais pas. Etc. Il a ses lois strictes, et puis on est soumis à ça, on accepte ça. Alors si l'autre type est musulman, il accepte ça aussi. Alors je peux lui faire plus confiance qu'à une personne que je connais personnellement, mais qui n'est pas musulman. Et la même chose dans la foi chrétienne, n'est-ce pas? D'une façon générale, les gens se font confiance, qui font partie de la même confession. Parce qu'ils savent que ces gens participent dans une même moralité, une même vision morale du monde, n'est-ce pas? Mais, comme j'ai dit, c'est une sorte paradoxale, n'est-ce pas, que cette chose tellement positive dans ce sens-là devient une chose extrêmement négative quand on projette la contrepartie de la chose, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas musulmans ou qui ne sont pas chrétiens, sont des plus réprouvés, n'est-ce pas, les plus damnés. On ne peut faire aucune confiance à ces gens-là, on peut même faire la guerre contre ces gens-là, le jihad, la guerre sainte, tout ce que vous voulez, on peut les tuer avec impunité, etc. On peut faire n'importe quoi, n'est-ce pas. Donc, autant qu'on a une solidarité envers nos co-religionnaires, je généralise bien entendu, mais en autant qu'il existe une solidarité entre les co-religionnaires sur la base que ces gens-là ont une vision commune du monde, de plan moral, autant il y a un conflit fondamental entre les croyants d'une communauté religieuse donnée et les non-croyants, étant donné que justement les non-croyants sont tenus d'avoir une vision diabolique du monde, pas simplement différent, mais contre la vérité qui est leur foi religieuse. Ainsi, au bout d'une certaine évolution, les communautés religieuses sont devenues aujourd'hui la plus grande source de désunion et la plus grande menace pour la paix et le bien-être du monde. Et j'ai pris bien soin de dire les communautés religieuses, parce que je ne veux pas parler des individus religieux. Bien sûr, il y a d'abord des individus qui sont hautement des gens qui ont une très grande moralité. Il y a aussi des gens de chaque religion qui n'ont pas de préjugés contre les autres et qui prônent l'unité de la religion. Mais ce sont des gens quand même, malgré tout, dans la minorité. La minorité dans le monde et la minorité au sein de chaque communauté religieuse traditionnelle. Je vais juste terminer, je sais que la chose va s'épuiser dans quelques secondes. Il y a quelques années, j'avais l'occasion de représenter la foi Baha'i lors d'une immense conférence sur multireligieux, sur la révélation et l'environnement. C'était en Grèce. Et toutes les communautés religieuses étaient représentées. Et puis, la question, c'était, est-ce qu'on peut avoir une vision commune entre les religions sur les questions d'environnement? Et on avait donc des présentations de la part de tout le monde. Et puis, chacun des représentants des religions, ils avaient leurs 20-30 minutes pour dire qu'est-ce que c'est ma religion et qu'est-ce que c'est notre croyance. Puis, il avait vraiment tout, ok? Il avait vraiment tout, les juifs, les chrétiens de toutes les dénominations, enfin, absolument tout, tout ce que vous voulez. Et donc, chacun, ils ont présenté, ben voilà ce que, qu'est-ce que c'est le judaïsme, voici le bouddhaïsme, voici le jaïnisme, qui est une religion hindoue. Et puis, alors, en voyant tout ça venir, j'avais fait la chose suivante. J'avais dit, je suis certain que vous savez tous qu'est-ce que c'est la foi Baha'i. C'est ta base d'unité. Alors, je ne vais pas perdre mon temps à vous expliquer ce que c'est la foi Baha'i. Je vais plutôt parler de la question de la coopération interreligieuse. Et toute mon intervention était axée là-dessus. Évidemment, je savais très bien qu'il y avait peut-être certaines qui ne connaissaient pas la foi Baha'i. Mais mon but n'était pas justement de présenter la foi, mais d'essayer vraiment de faire une contribution positive à ce dire-là. Et dans cette présentation, j'avais dit la chose suivante. J'ai dit, il y a entre les religions, entre les communautés religieuses, un discours de différence, où dans le dialogue entre les religions, nous mettons de l'importance sur ce qui nous diffère. Bien sûr, il y a des choses qui nous diffèrent. Il y a des rites différents, il y a des croyances différentes, etc. Mais le fait de faire de ces différences le point le plus important dans notre dialogue, ça c'est notre choix. Ça c'est pas imposé par Dieu. Je dis, tout en tenant exactement au même dogme, aux mêmes croyances, nous pouvons choisir d'avoir un dialogue qui simplement met plus d'importance sur ce qui nous réunit que ce qui nous différencie. Pourquoi pas? Je dis, ça c'est pas une infidélité à nos croyances respectives. C'est un choix qu'on peut faire comme être humain. Alors, j'ai dit, il y a certaines choses quand même que les religions ont en commun. J'ai dit la croyance dans un pouvoir supérieur, la croyance, puisque c'était la question de l'environnement, j'avais dit, nous avons tous l'idée que le monde créé est sacré, parce que c'était créé par Dieu, etc., etc. Donc j'avais énuméré un certain nombre de choses. J'ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas se réunir autour de ces thèmes-là et simplement oublier pour le moment le dialogue sous toutes ces différences dogmatiques ou de croyances? Alors, personne n'a mordu à ça. Personne. D'ailleurs, ils ont même saboté la chose, c'est-à-dire que, je ne vous raconte pas tout ça, mais la copie de ma présentation devait être disponible et puis les dirigeants avaient arrangé pour que ça ne soit pas disponible. Finalement, moi-même, je suis allé le faire reproduire, je l'ai mis à table et tout ça. Enfin. Mais en fait, on voyait, enfin, ce qu'on pouvait s'attendre, que non seulement les gens ne donnaient pas suite à cette idée, mais ils étaient activement résistants à cette idée. C'est-à-dire, ils tenaient vraiment à rester dans ce carcan de dialogue sur les petites particularités de chaque religion et en quoi ma position est supérieure à la vôtre. Enfin, comme le prêtre orthodoxe qui a dit, il dit, la foi orthodoxe est sans doute la meilleure parce que nous avons Et il avait une quatrième chose, il dit, nous avons Dieu le Père, l'Esprit Saint, le Fils, et aussi, et c'était quelque chose... je ne sais pas ce que c'était. Non, mais c'était un autre truc, en fait. Et il y avait quatre, ou les autres avaient seulement trois, en fait. C'était une chose... Non, mais vraiment donc, je pense que c'est là où nous sommes ensemble actuellement. C'est-à-dire, je pense que ma proposition reste toujours valable. Et d'ailleurs, dans le message que la Maison de Justice vient d'écrire aux chefs religieux, ils ont repris un peu ce thème que j'avais énoncé à cette occasion, c'est-à-dire que rien n'empêche les gens, tout en gardant la fidélité à leurs croyances respectives, d'entamer un dialogue d'unité au lieu d'un dialogue de différence. Et cesser de considérer les autres communautés comme des infidèles ou des damnés. C'est un choix qu'on peut faire. Il n'y a rien dans les enseignements d'aucune religion qui exige qu'on considère les non-croyants comme des damnés, comme des repouvés, tout ça. C'est un choix que nous avons fait, et c'est un choix qui, comme j'ai dit maintenant, constitue une des plus grandes, sinon la plus grande menace à la paix dans le monde. Alors, voilà.